Bonjour à tous, il fait beau, il fait chaud, j'ai pas eu le temps de faire d'intro, bienvenue dans C'est quoi le pitch ? Épisode 28, aujourd'hui un programme très bouillant puisque nous parlerons de X-Men Dark Phoenix et ses explosions, de Men in Black International et ses explosions, et de Parasite avec... Non, celui-là il pleut là par contre. C'est Guillaume au micro et pour parler de tous ces films, j'ai autour de moi ma petite équipe de X-Women, à savoir Marie et Fiona. Au courrier des lecteurs aujourd'hui, une seule lettre d'un certain Guillaume de Paris qui veut revenir sur Rocketman en nous disant, je cite, « Très bonne critique Guillaume, mais tu as oublié de dire que pendant 20 minutes au lieu d'Elton John, on a quand même l'impression de voir Damien Baizet. » C'est vrai, écoute, merci Guillaume, et si vous souhaitez comme lui nous écrire, ça se passe sur le Facebook de C'est quoi le pitch. Avant de commencer, on vous rappelle que ce podcast est 100% spoil et que chaque intervenant ayant le malheur de dire le mot truc entendra cette sonnerie et se verra retirer la parole. Immédiatement, on commence avec Men in Black International, écrit par Art Markham et Matt Holloway, et c'est Marie qui nous le pitch.
Molly a une dizaine d'années lorsqu'elle voit ses parents se faire neuroliser après qu'un alien se soit introduit chez eux. 20 ans plus tard, elle a construit toute sa vie dans un seul but, retrouver ses hommes en noir pour intégrer leur brigade ultra secrète. Sa ténacité n'échappe pas à la chef du bureau des Men in Black de New York qui la prend à l'essai et l'envoie à un stage dans le bureau de Londres. Là, Molly fait équipe avec Ash, un agent prometteur mais très borderline qui a sauvé la Terre quelques années plus tôt d'une terrible menace appelée la ruche. Ensemble, ils doivent garantir la sécurité d'un prince alien qui se retrouve très vite malencontreusement assassiné.
Fiona.
Alors moi, je ne suis pas une grande fan de Men in Black. Ça n'a pas du tout bercé mon enfance, même si je les ai vus. Non, mais pourtant, je les ai vus, mais ça ne fait pas partie de ma nostalgie. Et j'ai l'impression qu'il fallait de la nostalgie pour aimer ce film parce que je l'ai trouvé plutôt sans intérêt et surtout très... très enfantin. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bébé. Donc ça, c'était ma grande surprise sur ce Men in Black.
Bah disons que moi, qui est le premier Men in Black qui est sorti en 98, je crois.
97, non ?
Je sais plus. 97 ou 98. J'avais adoré, mais j'avais hâte. Mais j'attendais tout l'été qu'il sorte et j'avais adoré ce film. Et ça a bercé mon enfance. Et justement, là, ce film, parce que c'est vraiment une suite, parce qu'il ne t'explique rien. C'est-à-dire, si tu comprends pas qui sont Men in Black, ce qu'ils font, il faut avoir... C'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi ils ont pas appelé ça Men in Black 4, parce que de toute façon, c'est clairement une suite. Mais l'aspect surprise qu'il y avait dans le 1 et le 2 et 3 était raté. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont faire quelque chose de nouveau ? À part le fait que ce système que moi j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire que c'est le personnage qui, pour une fois, ne se fait pas recruter, mais va chercher les Men in Black et fait sa petite enquête pendant le premier quart d'heure, ça c'est très bon. Le reste, ça ronronne, il n'y a aucune surprise. On voit les méchants arriver. Liam Neeson, il y a quand même écrit très traître sur sa tête pendant tout le film. Rien que le fait que le début, avec la scène qui se passe sur la Tour Eiffel est absolument dégueulasse, j'ai jamais vu une Tour Eiffel aussi moche. Et en plus, la scène Thor, j'ai oublié le nom de l'acteur.
Chris Hemsworth, c'est H.
Ash, oui, tombe dans l'escalier, revient, et il y a une espèce de petit gag en disant redemande-lui en mariage en bas. Enfin, tout ça, c'est raté. L'humour est raté dans ce film. Mais les scènes d'action sont aussi pas terribles. Marie.
En fait, j'ai trouvé que c'était beaucoup de remplissage. C'est vrai que... Alors, je voudrais revenir quand même sur le point très positif de ce film. J'ai trouvé, effectivement, l'introduction, au-delà de la petite pastille de début qui se passe à Paris avec l'agent Ash et son supérieur pendant l'attaque de la ruche. Bon. Quand on passe sur le personnage principal, Molly, je trouve qu'elle est extrêmement bien caractérisée. La scène où on la voit assister de loin à la neuralisation de ses parents et se rappeler ensuite, enfin se dire ensuite que c'est la seule à avoir ce souvenir de cette alien, puis passer toute sa vie à essayer de retrouver ces hommes en noir pour faire partie de leur équipe. Enfin, c'est hilarant, c'est touchant, parce qu'en plus elle dit j'ai fait 10 ans de psy parce que tout le monde pensait que j'étais folle. Enfin, et donc quand qu'elle réussit enfin à arriver dans ce bureau et à convaincre la chef du bureau de l'engager en stage, j'ai trouvé que c'était très efficace. Elle est efficace, on y croit, sa trajectoire est limpide et t'as envie que ce personnage t'embarque. Le pépin, c'est qu'une fois qu'elle arrive au bureau de New York, au bureau de Londres, l'histoire tourne un peu en rond. C'est rempli, on remplit avec des scènes qui servent à rien. On pourrait les couper, ça n'aurait aucune incidence sur l'intrigue, notamment la scène du train. Je sais pas si vous l'avez en tête, mais tout ça, c'est voilà.
Bon, je me souviens même plus de la scène. Dans un train.
Elle est à Londres, elle doit partir elle est à New York, elle doit partir à Londres. Il y a une scène sur le train qu'elle prend qui dure 5 minutes. Bon, tu coupes cette scène. Elle a rien appris pendant tout ça.
C'est juste pour montrer qu'ils ont une technologie technologie dingue qui permet de faire...
Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Et c'est dommage parce que tu perds, elle, sa trajectoire.
Très bien, Fiona.
Alors, je suis d'accord sur le premier quart d'heure, hormis cette... exactement comme tu as dit, là, hormis la scène de la Tour Eiffel. Je trouve que ça marche bien et que c'était assez surprenant. Je me laissais bien embarquer. Et ensuite, bah, ce que j'ai apprécié, c'est bah, toutes les trouvailles visuelles des petits aliens. Donc, c'est sympa à voir. Mais l'histoire, on s'en contrefiche. On n'a pas, en plus, ça n'a pas vraiment de sens pour la raison pour laquelle H collabore avec M, H&M, balabala, bam, pour. Enfin, pourquoi il l'emmène en mission ?
Pourquoi elle s'intéresse ? Parce que c'est elle aussi notre héroïne.
Ah oui,
en fait, ce qui est très déroutant, j'ai trouvé, c'est qu'on lui dit « Ok, t'es prise à l'essai, tu pars en stage à Londres. » Elle arrive, on ne sait pas ce qu'elle fait, on ne sait pas ce qu'est son stage.
Exactement, on lui assigne aucune tâche. Et elle va se coller à Chris Hemsworth. Pourquoi ? Parce qu'il est beau.
En même temps, oui, non, mais il est caractérisé comme ça.
Oui, mais sauf qu'elle, elle n'est pas caractérisée comme ça, c'est ça qui est terrible.
Oui, mais... Qui n'est pas en pamoison devant cet acteur, et d'une, et deux, bah il est caractérisé.
Elle s'en fout, elle tombe pas amoureuse de lui.
Il y a une scène au début où, ça, c'est quand même dans sa caractérisation, où il joue au poker, je sais plus quoi, il se fait morte par un serpent. Il y a la copine du mafieux qui a une seule antidote, et puis il dit oui, donne-moi l'antidote, le seul, et au lieu de sauver son mari, je ferai ce que tu veux, ça cut, bon bah voilà, ils ont couché ensemble. On a compris que c'est le mec irrésistible, il est dans son personnage de champion qui plaît à tout le monde. Ça, on peut pas dire
que
ça marche pas.
De là à, t'arrives en stage, tu t'es battu toute ta vie pour entrer là, et qu'est-ce que tu vas faire ? Tu fais, ah bah lui, je vais aller le voir, alors qu'il a l'air d'être complètement en plus tiroflant, inintéressant, il dort au bureau. C'est l'inverse de ce qui devrait l'attirer.
C'est une légende.
Bah oui, mais c'est pas une légende pour elle, parce que c'est un bureau secret. Elle a pas de compétences, elle a pas l'histoire du bureau.
Justement, je trouve que pour quelqu'un qui connaît pas l'histoire du bureau, elle connaît déjà tout. Hein.
C'est dommage, on la voit pas du tout progresser.
Il y a juste sa formation, il y a juste l'actrice qui joue la patronne de New York, qui regarde un écran, Emma Thompson, avec marqué oui, c'est progression, arme 95%, langage 87%. Voilà. C'est juste un écran avec ça, tu dis bon, bah, tu supposes qu'elle connaît tout.
Et ensuite, ouais, aussi, surtout sur les actions, les scènes d'action, bah, je trouve qu'elles sont pas du tout épiques. Et les deux gros opposants, entre guillemets, sont, les deux conflits sont réglés par la même excuse, c'est-à-dire. Un petit lien émotif de je connais la personne. Le premier, c'est avec donc du coup la petite peluche mignonne qui est devenue un espèce de garde du corps géant là.
Donc c'est l'alien qu'elle a vu quand elle était enfant.
Voilà, c'est exactement l'alien qu'elle a vu quand elle était enfant et qu'elle lui dit mais c'est moi, je t'ai aidé. Ah oui, bon bah alors c'est bon, partez. Je vous
c'est
donne
quand
le,
même un énorme Deus.
Ouais, c'est un énorme Deus pour donner un MacGuffin. Vraiment, ça c'est super.
Ah, je trouvais que c'était plutôt bien.
Oh non.
J'attendais pendant tout le film le moment où elle allait retrouver.
Oui,
cette,
mais alors je trouve que comme ça, c'est un peu
pas bien foutu.
Non mais qu'elle le retrouve. Probablement, moi je l'avais pas reconnu quand il arrive. Puis il a fait oh Lucas. Je me suis pas dit ah tiens c'est lui. C'est vrai que je me suis fait avoir. Mais pour le coup que c'est ça que ça lui sauve la vie. Enfin, c'est un énorme Deus Ex Machina. Mmh, et d'ailleurs, la scène où les petites, elles voient deux agents du Men Black qui arrivent et qui disent « Attention, il y a une bestiole qui est dans le coin. » Ils les neuralisent, mais ils cherchent même pas la bête. Hein. Oui. Ils le savent qu'il y a une bestiole. Fait, allez, ils neuralisent elle. Ciao les mecs. Bah, oui, il y a quand même une bestiole qui est juste à côté. Ils n'en ont rien à foutre.
Oui, et ils se tirent. C'est mal fichu. Et donc ça, c'était la première scène où voilà, ça lui sauve la vie. Et pareil, à la fin, avec Liam Neeson, où Ash lui dit « Non, je sais que t'es encore là-dedans, etc. » Et du coup... Liam Neeson se bat entre guillemets un petit peu
contre le parasite
qui l'a envahi et du coup lui permet de réussir sa mission. J'ai déjà oublié quelle était sa mission.
Bah,
récupérer le
tuer la ruche.
Voilà, hein. Tuer la ruche et récupérer le petit.
L'espèce de petit cristal qui sert d'arme.
Et qui est très très mal utilisé aussi parce que à un moment ils ont le cristal dans la main, ils sont justement chez la méchante.
Ouais.
Bah utilisez-le genre. Enfin. Pourquoi vous lui utilisez pas la tête ?
Oui, enfin t'as vu que quand on mettait puissance minimum.
Ça c'est mal foutu parce qu'on voit que c'est puissance minimum, c'était quelque chose. Ça a fait un dégât monumental.
Oui.
Et quand ils s'en resservent, oui. Les dégâts sont beaucoup moins.
Ça a détruit quasiment une galaxie entière, mais de l'autre côté.
Ouais.
Non, c'est
alors,
justement.
Oui, alors ça, excuse-moi, non, je voudrais intervenir là-dessus.
J'attends.
C'est que le problème de cette menace de la ruche qui plane pendant tout le film, c'est une menace extérieure, extrêmement extérieure, et qu'on ne voit pas. Puisque c'est des gens, tu sais pas trop qui c'est, ils sont dans une autre galaxie, on t'explique qu'ils colonisent, mais en fait, tu ne les vois pas coloniser. Toi-même, c'est vraiment du conflit expliqué. Jamais visualisé, jamais montré, et qui arrive à la fin, mais toi t'as pas peur puisque tu sais pas à quoi ça ressemble, tu sais pas quelle est vraiment la menace.
Et surtout, tu crois qu'ils les ont vaincus en plus. Hein. Depuis le début du film, ils disent c'est bon, la ruche n'est plus un problème, on les a battus.
Oui, ah, sauf que t'as jamais vu pourquoi c'est un problème. Et je trouve que c'est vraiment problématique de faire le film dans ce sens-là, en fait. C'est en creux.
Ce qui amène un autre problème, c'est oui, les c'est méchants donc, de ce film actuel, des espèces d'hommes de les chaleur, jumeaux, les jumeaux qui font fondre le pauvre type au Maroc, là. Ben, c'est quand même des sacrés enfoirés, enfin, c'est vraiment des monstres horribles. Et à la fin du film, on en faut croire, non, mais en fait, les pauvres, ils sont gentils aussi, ils ont aussi peur de la ruche. Ben, ils ont fait plein d'actions qui n'étaient pas dans ce sens-là. Quoi.
Ils ont tué 2-3 personnes.
Oui, mais pourquoi gratuitement, complètement gratuitement.
Je me rappelle plus s'il les tue gratuitement. Non,
bah, c'est gratuit. Hein.
Non, je crois qu'il les tue pour prendre leur corps aussi.
Oui, bah, mais il le fait qu'une fois avec le mec qui fait fondre et après il tue d'autres gens. Et pareil sur le. Alors, on va revenir sur ce qui, moi, bah, en fait, le plus dérangé, c'est le petit Pioni.
Oh, il était mignon le petit Pioni.
Ah, moi, je trouve que d'un coup, j'étais dans Disney, je comprenais pas ce que ça s'affichait là.
J'avais l'impression que c'était les gardiens de la galaxie.
Ouais, ah, je sais pas, je trouvais que c'était très bizarre. Et surtout.
Il y a de l'humour dans les Men in Black. Hein. Oui, ça reste des comédies, les Men in Black.
C'était l'humour alien, vraiment alien avec un grand
personnage. Moi, je voyais l'âne de Shrek.
Oui.
Vachement, je sais pas. Je sais pas.
Petit biscuit.
Ouais, je sais pas qui est ce petit personnage. En plus, au début, on croit que la reine, elle travaille plutôt avec les deux méchants. Et finalement, ils ont été décimés. On ne sait pas pourquoi. Je comprends rien à l'histoire. En fait.
C'est la scène où les héros arrivent pour voir ces petits personnages et ils se rendent compte qu'ils ont tous été assassinés, sauf un pionnier. Je trouve que cette scène est vraiment symptomatique de tout le film. C'est-à-dire qu'il y a des gens morts partout. Ils lui disent oh, t'es le seul qui a survécu, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il répond avec une vanne genre bah, on a fait la teuf toute la nuit, bah, t'as pas vu, on vient de se faire assassiner. Et c'est la fin de l'enquête. C'est-à-dire qu'il ne lui demande pas ok, on a bien vu que tout le monde était mort, qui vous a tué, pourquoi, comment, alors que. Enfin, ce mec est une source d'information incroyable. Lui, il doit savoir qui les a tués. Enfin, il n'était pas.
Elle le récupère parce qu'il dit c'est mon témoin. Quoi.
Mais son témoin de quoi?
Bah, du massacre.
Bah oui, mais justement,
qui,
ça.
Par qui,
ça
pourquoi?
Je crois que c'est les deux hommes ensoleillés. Là,
bah qui, mais pourquoi ils ont fait ça?
Parce qu'ils cherchent. Les deux hommes ensoleillés, ils cherchent la petite arme là. Et donc, ils devaient penser que la reine de l'échiquier devait savoir où était l'arme. Voilà.
Bah non, pas du tout. Pas du tout, parce que les deux mecs. Les deux mecs, ils viennent voir ces personnages minuscules pour leur demander de fabriquer un poison qui est sur l'arme qui tue l'alien dont les héros ont la garde. Ça n'a aucun sens.
Je t'avoue que je m'en souviens pas.
Je reviens sur ce que Fiona a dit. Ces deux opposants, dont on apprend à la fin qu'ils sont gentils, tu dis, bah attends, ils ont quand même décimé tout un peuple.
Ils sont pas gentils.
Pas gentils, mais ils ont d'autres raisons. Ils ont un ennemi plus puissant. Voilà. D'accord. Mais
ils ont quand même assassiné des gens.
Enfin, honnêtement, pour sauver ta planète entière, est-ce que tu tuerais pas
d'autres
personnes?
Oui, bien sûr, mais là ils les font gratuitement.
Honnêtement, je me rappelle plus. Ce film n'a pas marqué. J'ai failli m'endormir 3 fois dans un film d'action, surtout au début. Je me souviens plus exactement qui il tue. Est-ce que quand il tue quelqu'un, c'est vraiment gratuit?
En fait, globalement, c'est ça le problème, quoi. C'est qu'on suit les actions, mais rien ne se tient vraiment.
Alors, il y a cette scène où ils réparent leur moto dans le désert, là, qui est interminable.
Non, mais c'est insupportable. Pour moi, ce film est quand même un prétexte pour nous montrer des petits aliens marrants tout au long du film, mais. Et nous dire attention, ah, il y a eu un traître, ah, mais en fait non, on croit qu'il a été neuralisé lui-même, H, tout ça. Bon, pourquoi pas, il y a la petite surprise de fin. Moi, finalement, la seule scène que j'ai bien aimée dans le film, c'est la scène avec justement Emma Thompson, parce que j'adore Emma Thompson.
Qui a 3 scènes. Ouais.
Qui a 3 scènes, malheureusement, très, très sous-exploitées, où justement, elle lui fait un peu. Elle désamorce, pour moi, ce que les gens se disent, c'est Men in Black encore, bah oui, on dit pas Woman in Black, et qu'elle dit. Elle dit non. Oh, moi, j'ai bien, je trouve que c'était astucieux de le faire comme ça.
Ça, t'as bien aimé, ça. Bah, attends, non, je vais me tourner vers la féministe du podcast. Marie, qu'as-tu pensé quand ils disent. Il a même vanne, d'ailleurs, dans X-Men, on oui, en reparlera. Donc c'est vraiment à la mode en ce moment qui dit oui, c'est les Men in Black, pourquoi c'est pas Women in Black?
Bah, je n'ai pas trouvé ça intéressant ni inintéressant, mais c'est vrai que pour revenir sur le féminisme du coup affiché de cette séquence, qui est un petit peu oubliée par la suite, parce que Emma Thompson, elle est très rapidement évacuée de l'histoire. Alors certes, l'héroïne, c'est une meuf, mais elle-même, je trouve, est un petit peu évacuée de l'histoire. Et au final, il n'y a pas beaucoup de gonzesses dans ce film. Et pour revenir sur les aliens, Fiona, tu disais qu'ils étaient mignons et tout. Moi, je n'ai pas ce souvenir-là. Dans Men in Black, les premiers, c'était un peu plus crade. Ils étaient un peu plus drôles, un peu plus. C'était des blablateurs.
Ils sont pas mignons, mais ce que je voulais dire, c'est qu'ils sont bien faits. Quoi.
Oui, mais là, ils sont mignons. Là, je trouve qu'ils sont assez mignons. Et c'est dommage. Enfin, ouais.
Et juste pour. Donc, moi, ce que j'ai aimé là-dedans, c'est que je me suis dit, il y a ces questions justement en ce moment, et qu'ils le traitent disant oui. ils sont attachés, laisse tomber, ne rentre pas là-dedans, don't go there. Je trouve que c'était plutôt malin de traiter ça comme ça.
J'ai l'impression que maintenant, c'est dans le... les obligations d'un film, c'est le moment féministe. Hein.
Mais moi, je trouve ça, dommage. Ça aurait été plus intéressant de faire un film féministe qu'un moment féministe.
C'est pas le moment féministe, c'est le moment où tu t'amuses un peu justement du fait que les gens râlent là-dessus et qu'ils disent non, mais don't go there, ils veulent pas changer, laisse tomber, on est coincé avec. Et puis voilà, donc je trouvais que c'était plutôt astucieux. Bah, elle le dit comme ça, hein, clairement. Hein. Mais le vrai problème aussi, on en a parlé, Marie, plus tôt, c'était que le plan de Emma Thompson, c'est d'envoyer sa stagiaire qui n'y connaît rien, finalement, parce qu'elle trouvait que Liam Neeson était louche.
Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'à la toute fin, Emma Thompson félicite Molly et elle lui dit... elle lui dit « Oh bah, j'ai trouvé que depuis quelque temps, c'était bizarre là-bas, merci d'avoir trouvé. » Le problème, c'est qu'elle l'envoie sans mission. Et je pense qu'il aurait été assez facile de donner plus de corps à ce film, à cette intrigue, en partant du personnage d'Emma Thompson, qui a un doute vraiment sur le fait qu'il y a une taupe. En fait, on ne fait pas de mystère, il n'y a pas de révélation sur le fait qu'il y a une taupe. Elle sait qu'il y a une taupe quelque part dans le bureau de Londres.
Ça arrive très vite, l'histoire de la taupe.
Mais laisse-moi finir.
Qu'elle lui donne comme mission, il y a une taupe, t'es nouvelle, t'as pas de préjugés sur les gens.
Et puis t'es la seule à ne pas être la taupe, parce que t'es nouvelle. Donc je t'envoie, et tu ouvres grand tes yeux, grand tes oreilles, et tu essayes de... rien que ça, ça aurait changé tout le film, je pense. Parce que la meuf, l'héroïne, elle aurait eu un objectif. Et ça, quand même, je trouve que ça manque vraiment.
Écoute, oui, c'est une très bonne suggestion.
Ça aurait été tellement plus simple.
Et quant à l'enjeu émotionnel, à la fin, on dirait que Emma Thompson lui dit « Bah oui, le prix des Men in Black, c'est que tu peux pas t'attacher. » Parce qu'elle s'est attachée un peu à Chris Hemsworth et elle est renvoyée au bureau de New York. Et elle a une petite phrase du style « Oui, voilà, ça a un prix d'être une Men in Black. » Mais en même temps, c'est pas le problème de Molly à la base. Donc,
là où ça marche pas, c'est que... Alors, ils te font la petite scène à la fin où elle la ramène en voiture. On se reverra souvent. Ils ont montré dans le film que tu mettais 5 minutes à faire Londres-New York. Donc, ils pourraient être meilleurs amis et se voir tous les soirs. Hein. T'en as qu'elle va mettre 10 minutes à faire l'aller-retour pour
rentrer chez elle. J'aimerais qu'on parle de la trajectoire émotionnelle de Ash, justement. Donc, on nous explique à très nombreuses reprises que c'était un agent extrêmement prometteur. Et puis là, maintenant,
Il a changé.
On sait pas trop pourquoi. Ouais, le problème, c'est qu'on l'a pas vu avant, donc c'est très difficile de...
Bah, t'as une scène avant.
Ouais, qui est extrêmement courte et pas très bien foutue. À la fin, moi j'ai quand même bien aimé le fait qu'il comprenne qu'il a été neuralisé et que donc il a un bug au cerveau finalement qui l'empêche d'avancer et qui l'empêche d'être lui-même. Mais j'ai trouvé que c'était sous-exploité.
C'est mal foutu parce que même si t'es neuralisé, tu es toujours le même. En fait, la même personne. Enfin,
ce qui est embêtant,
il est devenu complètement turoflant après.
Ce qui est embêtant, c'est qu'effectivement, la neuralisation, c'est vraiment. Un symbole de Men in Black, c'est vraiment énorme, enfin, c'est génial, enfin, c'était ouf dans le premier film quand il y avait ça. Et effectivement, on n'a jamais dit que les gens ils étaient complètement fuckés une fois que tu les avais neuralisés. Lui, apparemment...
Surtout que dans le 1, il y a la légiste, il la neuralise, je sais pas, au moins une vingtaine de fois, le mec qui raconte, ouais, chaque fois que j'y vais, je la neuralise, parce qu'à chaque fois, elle fait des autopsies sur extraterrestres. Puis elle reste intelligente, elle reste avec ses diplômes, elle n'est pas complètement foutue. Quoi. Donc là, ils ajoutent un aspect à la neuralisation qui n'existait pas avant. Ils ont du matos moins performant qu'avant, c'est pas pourquoi. Là, je suis d'accord, ça marche pas du tout.
C'est un peu étonnant. Quand tu me disais c'est une vraie suite, clairement, c'est pas tout à fait cohérent avec ce qui a été planté.
Parce que machin, c'est limite truc. Hein, quand même, hein.
T'as dit truc.
Oui, je n'étais pas en train de parler. Hein. Écoute, moi, un dernier point positif quand même sur ce film avant d'arrêter, c'est que justement, ce que j'ai reproché avec X-Men, c'est que les pouvoirs de Jean, on en parlera tout à l'heure, ça n'était pas assez exploité. Là, au moins, ils ont une arme, ils tirent puissance minimum, ça fait le Grand Canyon. Je dis voilà, une vraie arme puissante, et donc quand ils mettent le niveau maximum, je dis oh, on va avoir quelque chose d'incroyable. Bon, elle tire dans un trou de verre, du coup, on voit pas. Mais au moins, l'arme était quand même assez puissante.
Bah ouais, mais comme ça... tu le dis, c'est un défaut en fait.
Oui, mais tu verras que dans X-Men, c'est encore pire. Allez, on s'arrête là, sur ce film, tour final, Marie.
Oui. Attends, ce que tu viens de dire, ça me fait penser que en fait, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce film quand j'avais déjà cette impression en sortant des X-Men. En fait, je sais pas si vous avez vu Code Uncle. Oui. C'est exactement le même procédé. C'est à une meuf hyper méchante qui est sur une île en Italie, sur un château, et qui a une arme extrêmement dangereuse et qui appelle des trafiquants et c'est les enchères de celui qui veut l'acheter. Et putain, c'est exactement la même truc que Men in Black.
Bout de l'intrigue.
Un bout très important, quoi. incroyable.
Enfin, les Jurassic Park aussi, ils achètent des dinosaures et puis ils font vendre aux enchères. Quoi. Enfin, ça, c'est un lieu commun des méchants qui ont des armes.
Bon, quoi qu'il en soit, contrairement à toi, Fiona, j'ai vraiment grandi avec Men in Black. J'avais ce petit côté nostalgique qui, malheureusement, ne m'a pas permis d'apprécier pleinement ce film. Surtout que je pense qu'il y avait des solutions assez faciles à mettre en place pour que ce soit un film beaucoup plus prenant, beaucoup plus intéressant et qui nous ramène en 97.
Fiona.
Je recommande pas ce film. Je trouve que c'est un alien qui n'a ni queue ni tête. Voilà.
Écoute, j'ai été très déçu. Men in Black, j'avais adoré le 1, le 2 était pas terrible et le 3 remontait un peu la pente, mais celui-là... Je vais pas dire ni fait ni à faire, mais enfin, on en ressort de là en disant ouais, bon, d'accord.
Aucun intérêt.
Ouais, y a pas vraiment d'intérêt. Je sais même pas si j'espère une suite. Peut-être que la suite va être mieux maintenant que les personnages sont installés. De toute façon, si ça marche, ils en feront une. J'ai pas regardé le box-office, mais si on n'a pas, c'est pas très grave. Hein. Allez, on enchaîne avec Parasite, écrit par Bong Joon-ho et Han Jing-wong. Et vu qu'on est trois, c'est moi qui vais le pitcher. Alors, de nos jours, à Séoul vit une famille très pauvre, qui n'a d'autre logement qu'un appartement miteux à moitié enterré dans le sol. Mais cette famille est du genre débrouillarde, puisqu'en falsifiant un diplôme, le fils aîné va trouver un emploi de professeur particulier d'anglais pour une petite bourgeoise. Et ça marche tellement bien que tour à tour, tous les membres de la famille vont se faire embaucher dans la même maison pour leur soutirer des sous. Mais le retour de bâton est brutal, puisque la bonne qu'ils ont fait virer pour occuper sa place revient dans la maison pour revenir chercher quelque chose. Mais ce quelque chose va mettre le plan de toute cette adorable famille par terre. Marie.
Alors je me demandais comment t'allais le pitcher parce que je trouve que c'est un film assez complexe, assez étonnant, plein de surprises et plein de tonalités différentes. Et écoute, t'en es très bien sorti.
C'est gentil.
Moi j'ai beaucoup aimé ce film. Je savais pas trop à quoi m'attendre en y allant et j'ai l'impression d'avoir vu tour à tour un film qui dénonce un film social, un film parfois drôle, parfois très touchant, parfois j'ai flippé ma mère. Il y a eu des retournements de situation que j'ai pas vu venir, qui m'ont beaucoup surprise, mais que j'ai trouvé extrêmement bien fichu. J'ai trouvé que tout ce qui était planté ressurgissait. Enfin, c'est un film que j'ai trouvé extrêmement bien construit et qui m'a emballée. Clairement, c'est le genre de film. Je commence à le regarder, je peux pas le terminer. Enfin, je suis obligée d'aller jusqu'au bout. Je suis complètement absorbée, quoi.
Surtout dans une salle de cinéma, oui. Fiona.
Alors moi, j'ai bien aimé. Et il m'est arrivé quelque chose d'un peu bizarre, c'est que quand je suis sortie de la salle, je fais c'était vraiment pas mal. Plus j'y pense, et moins j'aime. Et ça, c'est quand même rare. Normalement, c'est plutôt l'inverse. Parce qu'en fait, ce film a aussi été vraiment salué par la critique et tout le monde est
encensé par toute la critique.
Et en fait, je trouve que ça mérite pas autant. C'est intéressant, c'est bien fait, c'est haletant. Enfin, on est vraiment pris dans l'histoire. Mais au final, mon vrai problème avec le film, c'est je trouve que. Donc, le message du film, c'est quoi ? C'est les pauvres contre les riches, globalement. Et les pauvres sont, comme tu l'as dit, en souterrain. Il faut descendre plein d'escaliers pour aller chez eux. Alors que les riches, il faut aller haut dans la montagne, sur une grande colline pour aller...
Verdoyante.
Pour aller les voir. Et les pauvres sont les riches sont un peu neuneux. Et les pauvres sont plutôt...
Malins.
Oui.
C'est juste la mère qui est neuneux.
En plus, c'est vraiment plutôt que la mère. Mais du coup, j'ai un problème, moi, avec nos héros, en fait. J'ai aucune sympathie pour eux. Je trouve que c'est des connards.
Ah,
globalement,
ce film dit riche et pauvre, le monde est entouré de connards. Hein. Bon, c'est ça que ça veut dire ce film. Hein.
Les riches sont pas des connards.
Ils sont un peu méprisants, mais même pas. Ils
virent les gens pour un rien.
Pour un rien. Parce qu'ils font quand même. Enfin, c'est pas pour un rien.
Le chauffeur, il se fait virer quand même. Parce que voilà, il trouve une culotte derrière, il en parle même pas. Il cherche même pas à avoir son avis sur le sujet.
Il y a quand même une différence entre virer rapidement un employé sur qui t'as des doutes. Et rendre allergique une nana, enfin la rendre malade et faire croire qu'elle est tuberculeuse, quoi.
Oui, bon, ça, oui.
Mm-hmm.
Donc oui, je trouve que nos héros sont des connards.
Oui, mais ils sont malins.
Ouais, ils sont malins, mais du coup, moi, j'avais pas d'empathie pour eux. J'avais presque envie qu'ils se fassent gauler. Je les aimais pas, quoi. Je les trouvais. Mm. Et en plus, je les trouvais. Ils sont très grossiers. Très vulgaire quand ils sont dans la maison
entre eux,
je trouve ça assez cliché en fait aussi de les voir rôter
les groseilles hein.
Oui, mais ils sont malins et c'est ça que moi si j'avais un défaut à ce film
un seul
un seul, parce que franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est justement sur la caractérisation de ces héros. Parce que ils ont l'air parfois un peu cons. Enfin, ils parlent mal, effectivement. Ils ont l'air un peu teubés. Ils savent pas plier une boîte de pizza. Et en même temps, on nous explique aussi que les enfants ont été retoqués elle pour elle n'a pas été admise aux Beaux-Arts et lui, il a passé 5 fois le concours d'entrée pour je ne sais plus quoi. Enfin bon, bref, il n'a jamais été pris. Et il se révèle quand même être de sacrés génies. Ils font des papiers plus vrais que nature. Ils répètent les scènes hyper bien. Et quand ils sont dans leur rôle, ils sont irréprochables. Donc en fait, on se demande un petit peu pourquoi ils ont foiré. Enfin,
c'est vrai.
Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça marche pas ?
Franchement,
ils sont tellement forts. Ils sont tellement forts. Enfin, la fille de la famille, j'ai trouvé ce personnage flamboyant.
Elle est
incroyable. Enfin, elle est tellement crédible, elle est très sûre d'elle. Oh là là. Enfin, moi j'étais hypnotisée. Et tu te dis bah oui, elle a l'air quand même de savoir ce qu'elle fait. Pourquoi n'a-t-elle pas été prise aux Beaux-Arts finalement ? C'est pas à cause de leur pauvreté en fait.
Elle était juste meilleure comédienne que artiste. Hein.
J'aurais aimé finalement qu'on simplifie tout en disant ils n'étaient pas assez riches pour faire des études. Ça aurait peut-être été plus facile quoi. Et ça aurait aussi donné quelque chose de plus simple au message. Oui, en fait, tu peux si t'es pauvre, ben tu te démerdes avec les moyens du bord, dont ben les arnaques, et tu vis comme tu peux. Mais là, c'est pas pour ça qu'ils ont raté leur vie finalement.
Oui, et puis pour des sacrés arnaqueurs, moi ça, c'est mon problème. Enfin, j'ai deux gros points noirs dans le film que j'ai quand même globalement aimé. Hein. Mais c'est.
Mais de moins en moins.
Oui, plus j'y pense, plus je dis bon. Mais en fait, non, c'est aussi le fait que quand c'est encensé par la critique, ça t'énerve un petit peu en disant oui, bon, c'était bien, mais calmez-vous. Ils ont quand même. Ils risquent leur peau. Hein. Enfin, ils sont dans un engrenage très compliqué à gérer. Et alors que la famille est en vacances. Pourquoi vont-ils ouvrir à cette bonne ?
Ça, je suis d'accord.
Pourquoi ouvrent-ils à cette bonne ? Et même s'ils ouvrent, pourquoi les autres ne se cachent pas en l'air et restent dans les escaliers ? Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire de laisser la bonne entrée ? Pourquoi soudainement, ils ont de la sympathie et de l'empathie alors que clairement, ils n'en avaient aucune. Quoi.
Non, mais ça, pour moi, je suis d'accord avec toi, c'est le gros point noir du film. Scénaristiquement, malin comme ils sont, jamais ils auraient dû la laisser entrer. Et en plus, même une vraie bonne, une vraie excuse, je suis désolé, madame n'est pas là, j'ouvre pas.
Oui, bien sûr.
Exactement.
C'est aussi simple que ça. Et là, ils l'ont ouvert. Et quand ils l'ont ouvert, j'ai fait ah non.
Ça, c'est l'erreur.
Parce que tu sens
elle aurait dû s'introduire. Bah, il aurait
oui. Et moi, je pensais.
C'était si facile qu'elle s'introduise.
Genre, elle est partie avec une clé.
Elle connaît les lieux. En plus, on voit, elle a coupé la caméra. Puis, elle va connaître les lieux. Elle va quand même rentrer. Parce que ça, c'est une énorme. Malin comme ils sont, ils auraient pas dû faire ça.
Alors d'ailleurs, j'ai repensé un petit point noir quand même du film. Donc, j'en ai un deuxième. Deux fois de suite, l'intrigue se complexifie, se dégrade pour eux exactement par la même chose, c'est qu'ils font tomber quelque chose dans les escaliers. La première fois, eux tombent dans les escaliers, alors qu'ils écoutent leur mère parler avec cette bonne dans le souterrain, ils glissent et ils tombent comme des connards, et donc la bonne les filme.
C'est
un peu dommage.
C'est un peu grand guignol.
Et c'est refait juste, à la fin du film, ça s'est répété, le fils descend avec une pierre, et il fait tomber la pierre dans les escaliers, et c'est comme ça qu'il se fait gauler. C'est quand même con.
Oui, non, mais c'est.
En plus, ce qui est dommage, c'est qu'il aurait fallu que la mère, juste avant, elle glisse dans les escaliers, elle se rattrape in extremis, et on aurait implanté que les escaliers sont hyper casse-gueule. Là, t'as l'impression, tu sais pas pourquoi, deux fois de suite, il tombe comme. Enfin, là, c'est mal foutu.
C'est mal foutu. Et alors, moi, mon autre, encore autre point noir, c'est le personnage du début, l'ami qui parle du piston au fils.
Qui disparaît.
Qui disparaît complètement, alors que pourtant, en plus, il nous pose un espèce d'enjeu sur lui, à savoir quand je rentre, je vais me marier, je vais proposer à la nana, à la petite bourge de l'épouser, donc et je te la montre à toi parce que j'ai confiance en toi. Alors peut-être que c'est juste pour nous montrer que en fait c'est un filou, hein, voilà, et il faut pas lui faire confiance. Mais mine de rien, avec cet enjeu sur ce mec qui part en année d'études à l'étranger, il disparaît complètement quoi.
Je crois que c'est même pas en année d'études, enfin c'est genre il part pas si longtemps que ça. Hein.
C'est
vraiment dommage
mais...
parce que là il y avait un enjeu comme tu dis extrêmement fort, c'est que l'engrenage est tellement puissant, on se dit quand cet ami va revenir la seule solution ce sera de l'éliminer.
Oui, c'est un peu ça. Je pensais que ce serait lui, leur chute, en fait. C'est lui qui se sentirait trahi de voir qu'on a été renvoyé et qu'en plus, sa copine, elle, qui... Alors peut-être que c'est ça aussi sur les riches, c'est une petite pute, globalement, qui couche avec tous ses profs.
Bah non, elle a le droit de tomber amoureuse de deux garçons différents.
Oui, bien sûr, mais je ne sais pas ce qu'ils essaient de nous dire avec le fait que...
Il y a
le même discours pour les deux.
Alors moi j'ai plutôt vu ça comme le héros qui prend un petit peu trop l'identité de son ami, plutôt que elle qui...
Excusez-moi.
C'est lui qui répète les phrases mot pour mot que son pote lui a dit au début. C'est pas elle qui finalement reproduit le schéma, parce qu'on n'en sait rien. On n'en sait rien du schéma. On l'a pas vu. Si ça se trouve, son ami il la baratine totalement.
Mais voilà. C'est vrai que moi, quand je suis allé voir ce film, j'aime pas trop les films asiatiques, je déteste les Palmes d'Or. J'y suis allé entrer dans les pieds, mais c'est vrai que globalement, je suis très agréablement surpris. C'est quand même un film méchant, c'est quand même un film avec de l'humour, c'est un film malin, comme tu dis, Marie, c'est extrêmement bien écrit, c'est bien construit. En plus, alors je l'ai pas revu une deuxième fois, mais quand tu le revois une deuxième fois, tu vois plein d'indices où ils donnent à la première partie qui vont
révéler le mari dans la cave.
Par exemple, quand ils disent oui, la bonne,
elle mange pour deux.
Oui, ça, je m'en souvenais quand je l'ai vu.
Après, il y a le mec où il pisse et puis il jette de l'eau, il rate et puis il trempe son fils. C'est pour montrer qu'à la fin, il va y avoir énormément de pluie et qu'ils vont tous être trempés. Et d'ailleurs, la scène que moi j'ai adorée, je trouve que c'est parce que c'est un film social, comme tu dis. Moi, je dis, j'ai un peu envie de dire, ils sont mignons, ces Coréens. Ils font des films sociaux 60 ans après nous. Quoi, parce que il y a 50 ans, ils mouraient tous de faim. Et là, il y en a que la moitié qui meurt de faim. Donc, ils découvrent ce que c'est que des classes sociales et donc ils font des films dessus. Mais Chabrol, dans La Cérémonie, il faisait ça il y a 50 ans. Donc, bon, pourquoi pas ? Ils ont le droit. Et la scène, pour moi, qui est symptomatique de ça, c'est la scène où il pleut, justement. Où là, quand ça pleut dans le quartier pauvre, mais tout le monde est en galère, tout le monde prend des seaux, leurs maisons sont inondées, la sœur est obligée de s'asseoir sur les chiottes parce que ça refoule.
Terrible, hein.
Et le lendemain, la bourgeoise dit « Ah, oh, cette pluie était merveilleuse, ça a enlevé toute la pollution, on n'a pas fait notre camping, mais c'est pas grave, on va faire un pique-nique dans le jardin, oh, cette pluie est merveilleuse. » Et tu vois, le père qui est au volant, qui dit « Putain, mais moi, j'ai passé la pire nuit de ma vie, c'était horrible, je sais même pas si j'ai dû dormir dans un camp de réfugiés. » Et là, c'est vraiment... La fracture qui va amener jusqu'à la fin de ce film.
Je trouve que la fracture est amenée, et pour le coup, ça vraiment très très bien sur l'odeur.
Je suis pas d'accord. Je trouve que l'odeur... abusent là.
Je trouve que c'est une humiliation.
Mais c'est pas ça.
Constante, et que je comprends qu'on puisse te faire vriller dans une situation aussi extrême que ta fille est en train de saigner autour de toi.
Je voudrais finir sur Fiona, c'est que effectivement, donc c'est très bien fichu, et à la fin, là où c'est bien foutu, c'est que c'est même pas sa propre odeur qui fait vriller le père. C'est parce que le mari de la bonne qui est dans la cave pue, et le mari de la famille de Bourges, alors que il y a du sang partout chez lui et que son fils va mourir,
un moment de dégoût.
Genre, ça pue.
Parce qu'il y a ton fils. Tu sais pas ce qu'il a, il s'est évanoui, il faut amener en urgence, et là il se pince le nez comme une midinette.
Mais
personne dans une action d'urgence, tu ferais pas ça. Personne se boucherait le nez pour récupérer les clés pour aller sauver ton fils. Ça, c'est pas crédible.
Mais c'est vrai, il a raison. Non, moi je trouve qu'il est... C'est vrai. Moi je voyais plus dans le sens du côté du père.
Ah oui, mais ça je le comprends bien.
Pauvre,
quand il dit.
Qui pète un câble, de voir que, il pue et que. Et qu'on lui ramène son odeur souvent. Mais oui, je suis d'accord que le père Bourges, lui, c'est pas crédible qu'il se bouche le nez au moment où il récupère les clés pour aller sauver son fils. Ou sa fille d'ailleurs, je sais plus.
C'est son fils qui. Et un autre énorme problème dans ce film, c'est qu'à la fin, donc, le père disparaît, les flics se demandent où il est, puis on apprend qu'il s'est caché dans le sous-sol. Mais la fille de la famille bourgeoise doit le savoir. Parce que quand le fils se fait fracasser le crâne par la pierre, il est juste devant l'entrée. L'entrée est ouverte. Et après, on voit qu'il est sur le dos de la fille qui l'a amené dehors. C'est-à-dire que quand elle allait le chercher, elle a vu le passage secret. Donc elle le savait qu'il y avait un passage secret. Donc les flics ont dû...
Parce que, excuse-moi,
elle est arrivée, il y avait un énorme trou. Puisqu'après, on le voit que c'est le père...
T'es sûr que ça n'a pas été refermé ?
Non, parce que c'est après, quand il y a un flashback du père, quand on voit qu'il remonte après, et c'est lui qui ferme derrière. Donc elle aurait dû voir le passage secret, donc ce n'est pas crédible. Erreur de scénario pour la Palme d'Or. Excusez-moi, pardon.
Mais justement, juste si on peut s'arrêter deux secondes sur ce twist du mari dans la cave... J'avoue que quand je l'ai vu, moi, j'ai pas adoré. Et j'adore toujours pas, en fait. J'aime ce que ça amène comme conséquence, etc. Mais cette je trouve ça too much, quoi. Je trouve ça trop, cette espèce de mari.
Ah, mais c'est encore la séparation des riches et des pauvres.
Oui, mais là, enfin, ce mari complètement fracassé.
Mais ça fait 7 ans qu'il vit dans une cave, le mec. Et justement, je trouve que c'est super bien fait. C'est l'acteur. Il a un déplacement presque bestial quand il marche, quand il monte les escaliers à moitié à 4 pas. Je me dis, ah ouais, là j'ai senti un mec qui a vécu 7 ans dans une cave. Hein.
Qui avait l'air heureux d'être dans cette cave.
Oui,
ce qui est très étonnant.
Oui,
c'est très bizarre. Elle lui donne le biberon. Il y a un côté un peu bizarre.
C'est quand même très chelou. Ouais. Tu te dis, si ces gens-là étaient, il y a 7 ans, à peu près normaux, qu'ils sont installés dans la cave, pourquoi à un moment ils ne sont pas sortis de la cave avec le salaire qu'elle se faisait ou qu'ils n'ont pas volé des... je trouve que c'est très, 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 très complexe.
Ah, si, ils sortent de temps en temps. Ils montrent des flashbacks où ils sortent,
ils
vont au salon.
J'ai tellement peur ce flashback
du petit qui a été traumatisé.
Ah, j'ai repensé dans mon lit.
Attends,
l'angoisse.
À quel moment ?
Parce qu'on nous explique que le petit garçon Bourges, il a eu un traumatisme, il a vu un fantôme dans la cuisine en pleine nuit et tu revois la scène et effectivement, c'est le mari qui est caché dans la cave qui sort. Et... c'est tellement bien foutu.
Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est une fausse piste ou si c'est une erreur de scénario, mais le mari qui est enfermé envoie un SOS en frappant son crâne contre pour faire la lumière en disant au secours. Et on voit le gamin qui crie au secours. Ouais. Et ça amène à rien.
Si,
alors je sais pas
bien
si
ça amène à quelque chose.
Alors, vas-y, dis-moi.
En fait, moi j'ai repensé aussi à ça parce que je trouvais que c'était étonnant. En fait, on nous place dès le début que ce petit garçon Bourges, il est chez les scouts. On nous reparle un peu plus tard du Morse. Mmh. Effectivement, il déchiffre le message, mais il ne se passe rien. Mais à la toute fin, le héros pauvre, lui, déchiffre le message de son père.
Et alors ?
Ben, ça sert à quelque chose.
Oui, non, mais du coup, non, mais pour le petit.
Moi, je te parle
du
haut secours, n'a servi à rien. Le haut secours lui-même
n'a servi à rien.
Oui, mais c'est ça que je te parlais. Oui, moi j'ai bien compris. D'ailleurs, le mec pour du Morse,
il
écrit très très bien. Il écrit des très bons adverbes, très longs. Je me dis, non, mais attends, t'écrirais pas.
Ah, moi j'ai trouvé que c'était bien fait.
T'écris un télégramme en Morse.
Un enfant peut pas. Enfin, lui, il est quand même dans son délire de fantôme.
Non, mais je parle du Morse à la fin. Du Morse à toute fin, le père qui écrit la lettre pour son fils.
Avec une lettre de 18 pages recto. Verso,
ouais, il écrit qu'en phase, et en plus, ce que je me demande, c'est que la fin, la voix off, on dirait qu'il écrit à son père. Bah oui, mais lui, toi, comment tu communiques avec ton père ?
Non, mais il communique pas et parce que justement, il dit c'est ça qui arrivera quand je serai riche. Quoi.
Et puis ce plan, alors justement, j'ai failli aller dans le cinéma parce qu'il dit oui, je vais devenir riche, je vais me marier, je vais faire un bon mariage et je rachèterai la maison et j'irai te secourir. Je sais pas si c'est aussi facile de devenir riche, le film tombe par terre, sauf que heureusement, c'est un flash forward et finalement, on sait pas s'il va y arriver. Par contre, il y a quand même plus simple. Pour aller récupérer son père. En plus, lui-même, il sort, il enterre la bonne, il sort. T'attends que les Allemands soient partis, tu vas récupérer ton père. Il n'y a pas besoin de devenir riche et de racheter la maison.
Oui, non, mais c'est sûr que là,
le problème, c'est pas de récupérer son père, c'est que son père, c'est un des hommes les plus recherchés de Corée et qu'il est.
Mais
non.
Oui, mais enfin, t'attends 4-5 ans et puis tu t'enfuis.
Ben, moi, j'ai l'impression que, effectivement, c'est plus simple d'acheter la maison et de laisser ton père vivre dans la maison en toute sécurité.
Tout ça, tu vas. Le mec, il va attendre 15 ans que son fils devienne riche. Pour aller quand il veut dans le jardin. Alors
en espérant que la maison soit en vente.
En espérant, ouais, mais tu sais, avec un gros chèque, je pense que t'es les Allemands, on les connaît.
Tu peux les virer.
Voilà, sinon. J'ai adoré quand même l'imitation de la femme quand elle imite la télé coréenne du Nord. Ça, c'était vraiment, vraiment drôle. Non, vous avez pas apprécié. Elle est en train de masser son mari. Et puis elle imite, c'est ce qu'on voit au zapping des fois, c'est-à-dire les journaux télé Corée du Nord, ils disent « Oui, le Kim Jong-il va lancer une bombe nucléaire !» Elle l'imite à la perfection, et c'était vraiment drôle. Et même il lui dit « Ah, t'imites tellement bien la télé du Nord !» Bon, ça n'a ça fait rire que moi.
Effectivement, le moment de l'inondation, tu te dis bien que c'est vraiment une scène d'horreur absolue, avec les chiottes qui sont au-dessus d'eux, ils sont en dessous des chiottes.
Leur appartement est très bien fait, oui.
L'appartement est bien fait.
Et justement, cette scène d'inondation, je l'ai vraiment bien aimée parce que dès le moment où ils partent, donc la famille Bourges part en camping, scène d'après, les pauvres sont en train de se mettre une cuite dans le salon et on voit qu'il pleut et que c'est l'orage. Et tu te dis, ok, donc, enfin, ça pue du cul. Tu sais que, ça va mal terminer.
J'avoue, j'avais plus.
Ah, si, on le voit venir parce que
tu le vois complètement venir. Mais tu sais pas comment ça va arriver en fait. Et c'est là que c'est bien fichu, c'est que tu sais que. Les Bourges vont revenir et quand ça sonne, c'est l'ancienne bonne. Et c'est là où la surprise est vraiment bien ménagée, je trouve. T'es à la fois, on te prépare et t'es quand même cueilli.
Après, il y a quand même, c'est assez classique, le coup de on est parti en camping, mais il s'est mis à pleuvoir, du coup il ne veut plus y aller, du coup on revient.
Oui, c'est classique, mais c'est classique, pas traité de manière classiquement, tu vois. C'est ça que j'ai apprécié.
Bah, heureusement qu'elle a prévenu par téléphone. Quoi, parce que...
On arrive dans 8 minutes.
Oui, ça au moins c'est
ça. C'est ça que cette scène est assez rigolote de. la mère qui fait le plat en 8 minutes pendant que tous les autres essayent de gérer la situation. Ah.
Oui, parce qu'ils sont lâchés. Hein.
Ah ouais, la scène où la mère, elle est là avec son plat tout prêt et elle rebalance la bonne... et elle
c'est la tue
finalement.
Ça
l'a tue,
ouais. Ouais,
ouais. Oh, mais c'est pour ça que j'ai trouvé qu'il y avait aussi des vrais moments d'humour, d'ironie.
C'est plutôt drôle, oui.
Ouais, ça marche
bien. Avec la sœur. C'est vrai que la sœur... vrai personnage comique, ah ouais, quand ouais. Elle dit...
Elle est incroyable, incroyable.
Quand elle dit à sa propre mère, n'entrez pas pendant mon cours, s'il vous plaît. Bon, ben bah voilà, tour final sur ce film, Marie.
J'ai vraiment beaucoup aimé, je le recommande, je trouve que c'est... Alors, je saurais pas dire si ça mérite une palme, parce que...
T'as pas vu les autres ?
Oui, en tout cas, je trouve qu'effectivement, c'est un grand film, c'est un très beau film, ça m'a beaucoup touché, beaucoup parlé, vraiment, c'était haletant du début à la fin. Et même si on le décortique ici et qu'on lui trouve plein de petits défauts, je le recommande chaudement.
Fiona.
Oui, je le recommande aussi, même si je l'ai aimé de moins en moins par la suite en y repensant.
Je te redemanderai dans deux semaines.
Peut-être que je déteste ce film. C'est un très bon film. Je pense que c'est aussi parce que j'ai vu partout sur Internet des « Oh, la claque !» Tu vois, je trouve pas que ce soit une claque. Je trouve pas que ce soit le meilleur film de tous les temps. Donc je trouve que c'est un très bon film. Ça s'arrête là. Donc, mais allez voir un très bon film. Bah oui, évidemment.
Bien, faire un très
évidemment,
bon film,
allez voir un très bon film.
Non, moi, j'étais, comme j'ai dit tout à l'heure, extrêmement agréablement surpris. J'ai deux adverbes suite. Je pourrais écrire des messages pour mon fils, moi aussi. C'était vraiment, vraiment, vraiment bien. Je m'attendais pas à un film aussi bon. J'ai moi les Palmes d'Or. Moi, je les fuis comme la peste. Et pourtant, très, très bien écrit, comme on l'a dit. Le scénario n'est pas parfait. Il y a des problèmes, mais c'est vraiment un film à voir. Marie, tu voulais rajouter quelque chose ?
Oui, non, je voulais redire ça, c'est que ici, on est quand même souvent confronté à des films où notre principale remarque, c'est oh bah putain, c'est pas écrit.
Oui, oui, il n'y a pas d'histoire.
Là, il y en a une d'histoire, et même si elle a des défauts, enfin, c'est un travail de scénario assez bluffant.
Ouais. On termine avec X-Men Dark Phoenix, écrit par Simon Kinberg, et c'est Fiona qui nous le pitch.
Dans un monde où les mutants sont enfin acceptés par la société et sont même perçus comme des héros, la Maison Blanche fait appel aux X-Men pour secourir leurs astronautes perdus dans l'espace. Lors de cette mission spatiale, Jean Grey sauve tout le monde en absorbant une mystérieuse force cosmique. De retour sur Terre, cette force cosmique la rend on ne peut plus puissante, mais aussi très instable car elle ne sait pas contrôler cette toute nouvelle puissance. Résultat des courses, elle est extrêmement dangereuse. Ayant par ailleurs appris qu'on lui avait menti sur son passé, Jean se sent seule et est en colère. Elle s'éloigne des X-Men et se rapproche d'une extraterrestre, car oui, il y a des extraterrestres maintenant dans X-Men. Voilà.
C'est Jessica Chastain quand même.
Une extraterrestre donc qui n'est en fait intéressée que par la force cosmique que contient Jean pour se l'approprier et gouverner la galaxie, moi.
T'es sûr que c'est pour gouverner la galaxie ?
Je crois que c'est détruire le monde, enfin détruire les habitants et prendre leur place sur Terre.
Non, moi, il me semblait que c'était... Oui, ça aussi. Parce que je crois qu'à la base, c'est pas très clair leur plan, déjà.
Non, c'est pas clair.
Parce qu'il me semble que leur planète a été détruite par cette saloperie qui détruit les mondes, comme dans Men in Black, et ils veulent juste canaliser... Ils disent, on suit cette force qui vogue dans l'univers pour la récupérer et reconstruire notre monde.
Alors, écoute, pour tout te dire, moi, ce que j'avais compris en voyant le film, c'était... ce que tu dis, puis après, finalement, au fur et à mesure du film, plutôt, on va virer tous les humains et prendre la place sur Terre.
Tant qu'on y est.
Et du coup, comme j'étais plus sûre du plan en faisant le pitch, je suis allée regarder sur Internet et ils disent « gouverner la galaxie », donc je fais « ça doit être ça
». Quand il y a un grand méchant, en général, il veut gouverner la galaxie. Oui, Marie, précisons que tu n'as pas vu le film.
Je n'ai pas vu le film, mais en t'entendant pitcher, Fina, j'ai l'impression que c'est Captain Marvel. On lui a menti sur son passé, elle aspire une force incroyable, elle est incontrôlable, pardon, mais écoute, c'est Captain Marvel.
C'est pas du tout incontrôlable, Captain Marvel.
Captain Marvel, oui, mais...
Sûr que si, on est obligé de lui mettre un implant pour maîtriser sa force.
Non, c'est pour pas qu'elle se rende compte qu'ils l'ont manipulée.
Bon,
bref,
ça c'est un autre film. On va rester sur X-Men.
Oui, bah écoute, ce film, honnêtement pas mal. Je veux dire, Men in Black, moi, j'ai trouvé ça très décevant, là... j'ai pris plaisir à voir ce film. J'ai trouvé les scènes d'action vraiment agréables à regarder. Je trouve que les pouvoirs, surtout au début, la scène qu'on dit qui se passe dans l'espace, chaque X-Men, leur pouvoir est extrêmement bien utilisé. Celui qui se téléporte, celui qui va vite, celui qui fait je sais plus quoi. La seule qui est mal utilisée, en fait, c'est Raven, qui est jouée par Jennifer Lawrence, qui a quand même le pouvoir super cool de pouvoir n'importe quelle forme. Elle prend aucune autre forme dans ce film.
Donc, parce qu'elle est tellement belle, pourquoi ?
Ouais, mais enfin bon, c'était son avantage. Mais ça, c'était vachement. Et pourtant, là, ce qui m'a pas plu, bah, c'est le scénario global. Parce que ils essayent de faire, je peux comprendre pourquoi ils essayent de faire, Professeur Xavier un méchant ou du moins quelqu'un qui comprend pas bien les X-Men. Attends, il les a amenés de saloperies mutantes chassées qui vivaient dans des quartiers de parasites, là, exactement comme dans le film sous les chiottes. Maintenant, c'est des héros. Et il y a quand même une scène où t'as le
Hank
qui lui dit en fait c'était toi le vrai méchant. Non mais attendez, là mais c'est deux claques là pour lui là. C'est un vrai méchant, il vous a sorti de la merde là, vous devriez lui baiser les pieds tous les matins. Alors oui d'accord, il est peut-être un peu trop mégalo, il est peut-être en train je reçois un appel du président, c'est super. Bon d'accord, laissez-le kiffer un peu quoi. C'est pas si grave que ça. Et il vous fait pas de mal, il a créé une école, mais vous rendez compte le bienfait qu'il a fait ce mec là. Et parce qu'à un moment il a dit ouais faudrait si aller sauver vraiment le capitaine qui est dans le vaisseau spatial, il a fait prendre un risque à une X-Men, ça y est c'est devenu un pestiféré. Ça je comprends pourquoi ils ont fait ça, mais c'est très mal amené, ça marche pas du tout.
Alors je suis assez d'accord. Néanmoins, si, pour moi ça aurait été presque le côté positif, c'est au moins on essaye de rendre un peu moins lisse Charles Xavier, que je trouve que c'est l'intention était bonne de effectivement de dire dis donc t'as pris un peu le melon, tu
es
un peu show off, tu vas un peu trop loin dans tes aspirations, mais effectivement c'est maltraité. Mais alors globalement moi sur ce film je me rends compte que je suis un peu trop influencée par les critiques internet parce que justement
notons que t'as toujours dit que t'étais une experte de X-Men.
Oui, je suis pas une experte mais j'aime beaucoup X-Men. Mais tout le monde disait que c'était une pure bouse, ce Dark Phoenix, mm-hmm. Et je trouve pas. Je trouve qu'il y a
non,
eu
c'est pas une bouse.
Apocalypse, c'était bien, bien, bien au-dessus niveau bousitude. Hein.
Je m'en souviens.
Je trouve que c'est pas nul à voir, mais en fait, j'ai un vrai problème, c'est que ce film ne s'adresse à personne. S'il s'adresse aux fans de X-Men, bah, on a déjà vu tout ça. Dans plein de films, dans oui, Days of Future Past, on a déjà vu dans X-Men 3, on a déjà vu Jean Grey enfant avec Charles et Eric qui venaient la recruter et elle faisait voler toutes les voitures et on l'a même vu tuer Charles Xavier.
C'est ça, j'allais dire, il y a pas un X-Men où tu es voilà. Charles Xavier. Alors attends, j'ai une question qui n'a rien à voir. Hein. Je comprends pas, c'est que dans X-Men, es-tu Charles Xavier et pourtant dans Logan, plus loin, on le voit, il est vivant.
Alors, je t'avoue, j'ai pas vu Logan, mais justement, tout le problème, c'est la chronologie des X-Men. En fait, à partir de l'Apocalypse, c'est limite oublier tous les films que vous avez vus avant. C'est nouveau.
Qui se passe après, donc.
Ouais, enfin, qui se passe après. C'est vraiment le
donc,
bordel
dans
la timeline.
C'est pour ça que Raven meurt, alors. Parce que j'étais hyper surpris. Moi, les X-Men que j'ai vus qui sortaient début des années 2000.
Oui.
Bah, elle est là, Raven. Elle bosse avec Magneto, ils sont potes, et là, elle meurt.
Oui, mais non, ce n'est plus la même histoire, ce n'est plus la même trame. Et ce qui est très dommage, bon, justement, en fait, c'est pour ça.
Moi, je crois que c'est juste le passé. Moi.
En fait, c'est ça le problème. Donc, comme je dis, ça ne s'adresse pas aux fans d'X-Men parce qu'on a déjà vu ces scènes-là. Et en plus, c'est pas cohérent parce que le Phénix, c'est pas ça, c'est pas la boule cosmique, ça a jamais été ça. Le Phénix, c'est elle. Ça, c'est son pouvoir à elle qui est en elle et depuis toujours.
Ah, mais ils ont le droit de réinventer.
En fait, la continuité, elle est pas claire. Soit c'est nouveau, soit c'est pas nouveau, mais en tout cas.
Tu viens de me dire que c'était nouveau, en fait.
Oui, c'est nouveau, mais c'est les mêmes personnages. En gros, ils nous disent c'est une nouvelle timeline. Mais le Phénix, il était déjà là quand même, c'est toujours la même personne. Du coup, ça ne fonctionne pas pour les gens qui connaissent bien X-Men. Ils vont dire bah non, c'est pas du tout ça le Phénix. Et en plus, on a déjà vu ces scènes-là, donc c'est sympathique, mais on les a déjà vues. Donc on s'en fout un peu. Et ceux qui découvrent X-Men, bah, ils vont être un peu paumés. Et surtout, moi, ce qui me dérange, en fait, avec ce film, c'est donc voilà, moi, j'adore les X-Men, j'avais adoré surtout en fait, X-Men 1 et 2, les premiers de Bryan Singer, et j'avais beaucoup aimé First Class, qui était donc le début de cette nouvelle trilogie. Et ce film-là, c'est à moitié un reboot, mais qui était basé sur un prequel. On s'en sort plus, c'est complètement confus, et je trouve qu'il n'y a plus de respect des spectateurs. Et...
Ah, carrément, plus de
ah ouais,
respect.
Non, on comprend rien, parce que maintenant, ils nous imposent des règles, ils nous disent « si, quand même, c'est lié, mais en fait, non, oubliez ça, mais ça reste. Enfin, » on ne peut pas suivre tout ça et c'est hyper confus. Ce n'est pas très intéressant du coup.
D'accord, non, mais revenons un peu sur le scénario. Qu'est-ce que tu as pensé de l'arc narratif de Jen ? Est-ce que tu as réussi à la suivre ? Est-ce que tu comprends qu'elle pète les plombs quand elle apprend que son père est vivant et ainsi de suite ?
Je comprends qu'elle pète les plombs. Après, je trouve qu'elle fait des revirements un peu rapides tout le temps. C'est devenu la pauvre nouvelle Magneto, parce que Magneto, je l'appelle la girouette. Il n'arrête pas, hein. Je suis gentil, je suis méchant, le pauvre, il a le cul entre deux chaises, il sait jamais. Et souvent, parfois, dans les films, dans un seul film, il change trois fois. Quoi. Mmh. C'est très compliqué. Et là, elle est un
là
peu...
Là aussi, il change de vie, Magneto.
Elle est un peu dans
il veut tuer Jean.
Mais oui, Jean, il veut la tuer parce qu'il aime Mystique, mais en même temps, après, il se dit, ah, mais non, Mystique...
C'est Mystique ou c'est Raven, je comprends.
Raven et Mystique, c'est la même personne. Raven, c'est son prénom, Mystique, c'est son nom de code.
D'accord.
Et mon vrai problème, en fait, gros problème, c'est j'aime les X-Men.
Mais...
N'allez pas nous foutre des putains d'extraterrestres dans les X-Men. Ça
surtout...
n'a pas. Vous aviez pas assez de matière, vraiment, avec des mutants, des gens où tu pouvais leur donner une mutation comme tu voulais. Il fallait faire revenir des extraterrestres. Non,
et
arrêtez.
Et puis surtout, à quoi sert ? Comme je dis, ce film t'enlève extraterrestres. ça change pas vraiment grand chose, parce que Xavier découvre l'extraterrestre 20 minutes avant la fin du film. Genre, il arrive pour récupérer Jean, il fait « Vous êtes qui, vous ?»« Ah, vous êtes le méchant du film, pardon, enchanté, bravo, 20 minutes avant la fin. » Et là, t'as, donc, il est joué par Jessica Chastain, qui clairement était là pour récupérer son chèque, hein, quand même. Et alors, du coup, je n'ai pas compris comment Jean la battait. Parce qu'en gros, elle lui dit, elle a jamais réussi à canaliser ce pouvoir, mais il dit « Donne-le-moi, parce que bon, là, elle va réussir, on ne sait pas pourquoi. » Comment il se passe le pouvoir, c'est en serrant dans les bras, allez, admettons. Et du coup, elle prend son pouvoir, Jean, elle arrête au milieu. Donc là, je me suis dit, ah, donc le pouvoir est partagé entre les deux. Du coup, ça va faire un bon combat. Pas du tout. Jean reste puissante, le combat final est nullissime. Je veux dire, il y a tous les extraterrestres qui lui foncent dessus comme des espèces de bots de Counter-Strike qui te foncent dessus, puis elle les dépoussière aussi facilement. Et à la fin, t'as Jean qui la prend, qui l'étrangle, elle enlève sa main, et puis t'as Jean qui reprend sa main, qui dit non, non, non. Reprends-moi le pouvoir, et puis finalement elle s'envole et puis elle pète. Mais qu'est-ce que c'est que ce combat final de merde?
Oui, c'est pour ça que ça n'a pas de sens, parce qu'ils cherchaient quelqu'un pour contenir la force cosmique, ils ont trouvé un Jean, et après elle dit donne-le-moi,
mais oui.
Meuf, tu l'as dit toi-même, tu ne peux pas le contenir, tu n'es pas assez forte, ne fais pas ça, tu vas exploser. Et ben voilà, c'est ce qui se passe.
Elle explose, bon. Ouais.
Donc non, le scénario fonctionne pas. Tout ce que je peux sauver, mais c'était divertissant parce que les.
Mais c'est très divertissant, bizarrement, c'est
parce que les scènes sont cool. Mm. Les scènes sont cool parce que les X-Men, c'est cool. Voilà, après ils battront plus jamais les scènes de Quicksilver dans Days of Future Past.
On va en parler. Quicksilver, c'est le mec avec les cheveux blancs qui va vachement vite. Là justement, je trouve que ce mec a un pouvoir de malade mental et il s'en débarrasse de façon honteuse, quoi. Parce que justement, ce mec est tellement bon que en fait quand il se déplace, bah le monde tourne au ralenti autour de lui, donc en fait il fait ce qu'il veut. Et il pourrait battre Jean, hein, s'il veut. Et donc du coup, il y a le moment où Jean pète les plombs et donc ils envoient Quicksilver le choper. Et comment ils arrivent à le battre? C'est qu'elle est en l'air, donc ils grimpent sur des espèces de débris. Et là, on ne sait pas comment Jean arrive à pousser le débris. Donc ouais, elle arrive à voir aussi plus vite que lui. Parce qu'il y a un peu cette même scène dans Justice League où Flash essaye de choper Superman. Il te rend compte, en fait, grosse surprise, que Superman bouge aussi vite que Flash. Donc ça marchait bien. Parce que Flash perdait son intérêt. Mais là, Quicksilver, il est quand même plus fort qu'elle, et juste, il rate une marche. C'est comme ça qu'il perd, quand même. Il rate une marche, et il tombe par terre au milieu du film, on ne le revoit plus.
Oui, non, mais je pense qu'ils ne savent pas gérer le pouvoir de Jean, ils ne savent pas gérer ce qu'elle est capable ou pas capable de faire. Et Quicksilver, il a eu deux fois, quand même, des scènes très cool. Non, la première était vraiment, vraiment cool. C'était dans First Class ou Days of Future Past, je ne me souviens plus.
C'est quand il sauve tout le monde dans l'école, là ?
Non, ça, c'était la deuxième fois qu'il le jouait, déjà. Mm-hmm. C'est quand il sauve tout le monde dans l'école. La première fois, c'est il libère Magneto dans sa prison.
Ah oui, puis il tire avec les gardes.
Et cette scène est extraordinaire.
Ouais,
ils l'ont refaite, justement, avec l'école. Et là, ils se sont dit, bon, peut-être pas une troisième fois. ils vont s'apercevoir de quelque chose.
Bah oui, mais si, moi, j'avais envie de le revoir.
Ouais,
elle est trop cool, cette scène.
Ouais, mais on nous remonte tout le temps. Là, c'est voilà, c'est un reçu. Donc moi, j'aime X-Men, donc j'aime bien revoir les scènes de puissance. Et je trouve que la scène d'introduction avec justement Jean qui est petite dans la voiture, qui veut écouter sa musique, marche pas mal.
Ah, cliché quand même.
Ah, c'est cliché. Mais j'ai revu, en fait, oui. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, c'est pas mal. Et après, en fait, j'ai revu des séquences de mon film que, pour le coup, ça, c'est mon film d'enfance, c'est X-Men 1 de Bryan Singer. Et c'est tellement au-dessus du lot, quoi. Enfin, quand Rogue embrasse son premier garçon et qu'elle absorbe son énergie, qu'elle manque de le tuer. Ouais. Ça c'est vraiment des scènes de déclencheurs de pouvoir vachement plus intéressantes que et plus spectaculaires, alors qu'elles le sont moins.
Enfin, rappelle-toi, cette scène, c'est exactement la même qu'il y a dans Shazam avec le gamin au début. Et rappelle-toi ce qu'on a pensé de Shazam.
Peu importe. En tout cas, voilà, c'est divertissant. Mais c'est pas intéressant.
Mais tu vois, justement, là où je
trouve. C'est pas surprenant, finalement.
Non, c'est pas surprenant. Bah, pour les gens qui ont vu tout plein d'X-Men comme moi, tu dis oui, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Oui, celle-là aussi, je l'ai déjà vu. C'est pas exactement la même scène, mais c'est le même genre de scène. J'ai déjà vu.
Là où je pensais que le film allait justement devenir extrêmement intéressant, parce qu'ils insistaient sur le fait que Professeur Xavier, t'es méchant. Et la scène où justement Raven meurt, où t'as Jean qui est en l'air, Charles Xavier bloque tout le monde. Sauf. Il y a l'espèce de Hank là, qui va lui tirer dessus, donc il peut l'arrêter avec une balle électrique. Il arrête tout le monde grâce à ses pouvoirs, les flics, tout le monde, uniquement pour Kraven High, et puis là elle meurt, elle se fait éjecter par une aura de puissance, et puis elle tombe sur un pas de peau, trois bouts de bois qui étaient là, et là le visage de Jacques Xavier qui est même pas ému, je me suis dit ouh, j'ai l'impression que tout ça c'est un plan. Ils voulaient se débarrasser d'elle parce qu'ils ont monté une pseudo-conflit entre les deux.
Ah ouais,
c'est moi. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, on va apprendre que Charles Xavier, mindfuck, c'est un méchant depuis le début. J'ai espéré ça. Par contre, attends, Marie, j'aimerais te poser une question, parce que dans ce film, justement, il y a le personnage de Raven, donc il y a une femme qui plus ou moins devenue la chef des X-Men, mais sur le terrain, on va dire. Et elle dit à Charles Xavier, ouais, on en a marre de s'appeler les X-Men, alors c'est nous qui faisons tous, on devrait s'appeler les X-Women. J'aimerais ton avis sur cette scène, Marie.
Bah, est-ce que c'est à propos ou pas ? Parce que, bon, j'ai pas vu le film.
C'est plutôt à propos, ça va.
Non, mais j'ai encore l'impression que c'est cash féministe.
Mais est-ce que moi j'ai l'impression
c'est pas la cash
quand,
féministe.
Quand vous en parlez, le film entier a l'air féministe, puisque effectivement, ce ne sont que des femmes surpuissantes.
Ah oui, non, non, donc, mais le film est plutôt. X-Men, ça a toujours été plutôt féministe. Hein.
Donc, est-ce que cette réplique est utile ? Non, parce que de toute manière, le spectateur lui-même, il se dit, ok, les femmes, elles sont badass.
Oui, c'est ça. Mais non, pour moi, c'est là où tu te trompes, je pense, Guillaume. Mm-hmm. C'est que c'est pas la case féministe, c'est la case. Les gens vont dire ah mais pourquoi on dit pas X Women, pourquoi on dit pas Women in Black.
Non, mais comment
on se débarrasse
de la question avant qu'elle arrive.
De cette critique d'appellation.
Je sais pas peut-être, mais moi je trouve ça hyper ringard de faire ça alors que Deadpool s'en est moqué en disant X Men non tu es une X personne. À partir du moment où t'as
ça,
Deadpool qui a fait
mais
ça.
Mais c'est une blague tu vois.
Bah oui mais à partir de faire ça ça devient hyper ringard
mais
de faire X Men.
Dans X Men là il y a pas de comédie. Bon, cette critique est confuse, mais parce que le film est confus, je trouve.
Pourtant, vous avez l'air d'avoir.
Il est divertissant et il est moins pire que ce qu'on disait. En fait, mais je trouvais qu'Apocalypse avait été tellement ridiculement nul que je me dis bon, ça se tient à peu près. C'est juste que bah, c'est pas surprenant. Il y a des scènes sont sympas, mais en fait, je trouve que les extraterrestres, qui sont finalement des mutants, hein, voilà.
si ils peuvent tourner le bit des gens. Comme
oui,
ça,
voilà. Non, mais ils ont l'air d'être vraiment badass
Mais ils le sont pas en fait.
Ils le sont à moitié. Parce que bon, il y a la scène du train où il y a la baston avec tout le monde.
J'ai bien aimé la scène du train.
Elle est bien, non, mais elle est bien, mais on va pas au bout des choses, voilà, globalement. Ouais. Voilà, pour moi, il tue le concept des X-Men. C'est ça qui me dérange vraiment. Les X-Men, et c'est pour ça que c'est mes héros préférés par rapport à tous les autres super-héros. Il y avait vraiment un contexte depuis le début. C'est des gens normaux avec une mutation.
C'est presque social. Enfin, c'était
hyper social. Ouais, c'était l'incarnation, c'était sur le racisme, c'était sur bah, ces gens-là sont dangereux, mais en même temps, t'as des mutants, leur seul pouvoir, c'est de pouvoir changer les chaînes de la télé sans télécommande. C'est ça leur pouvoir. Donc c'est de la merde, mais c'est ça.
Ça peut être pratique.
Et ils sont considérés vraiment comme des pestiférés, et ça les handicape dans leur vie. Enfin,
t'as toute l'idée de dire il faut les recenser parce qu'ils sont dangereux, il faut peut-être les mettre en prison. Et d'ailleurs, dans le premier X-Men, qui est bien, Jean. Qui était encore un bon personnage, disait mais un type au volant de sa bagnole, il est dangereux autant que nous. Quelqu'un qui a un couteau, tout le monde a accès à un couteau, s'il veut tuer quelqu'un, il peut faire
ça.
Non,
c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que rappelle-toi dans X-Men 2.
Ah, elle dit pas ça exactement.
Non, mais c'est pas ça. Dans X-Men 2, le film, le 3, je sais plus, ça commence, il y a un mec qui met tous les gardes dans la Maison Blanche KO et qui manque de buter le président des États-Unis. Tout le monde peut pas faire ça.
Non, tout le monde peut pas faire ça, mais c'était sur l'intégration globale des mutants.
J'aimerais juste finir sur justement ce qui m'a déçu dans ce film, c'est les pouvoirs de Jean. En gros, elle a les pouvoirs de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de rayon cosmique qui arrive. Et Jessica Chastain, extraterrestre, lui dit bien. Lui dit, tu te rends compte, tu vas avoir les pouvoirs de créer des planètes. Et il y a une superbe séquence où tu vois des cascades qui se créent, des montagnes. Et en gros, elle peut créer une planète entière. Donc lui, cette fille est Dieu. Et donc je me suis dit, quand ils nous mettent ça, je me suis dit, putain, mais en fait, quand elle va dévoiler son pouvoir, elle va péter la Terre. Je me suis dit, on va voir la Terre se casser en deux, tout le monde va crever, et grâce à ses pouvoirs, elle va se sacrifier ou elle va faire quelque chose qu'elle va reconstruire la Terre, parce qu'elle va en avoir le pouvoir. En fait, non, son pouvoir, elle fait un petit feu d'artifice, et puis voilà.
Non, mais c'est ça qui marche pas, et tu vois, quand tu dis elle va sacrifier, elle va sauver la Terre, mais pardon, je reviens aussi, X-Men 2, c'était déjà ça, elle est morte en sacrifiant pour que le X-Jet s'envole et qu'elle tenait le barrage. Enfin. On a déjà vu ces scènes.
C'est pour qu'un avion s'envole.
C'est celui des X-Men.
C'est pas terrible.
Avec tous les mutants dedans.
Ouais.
Voilà, non, mais c'est elle s'est sacrifiée parce qu'elle avait le barrage avec l'eau et
il y avait l'image du Phénix.
Il y avait l'image du mix sur l'eau. C'est pas nouveau. Voilà. Ouais, bon. C'est divertissant, mais c'est pas nouveau. Revoyez les vieux X-Men.
Allez, on s'arrête là. Tour final,
c'est divertissant, mais allez-y si vous avez une carte UGC limitée, ne payez pas votre place. Voilà. Et revoyez X-Men 1 et 2.
Bah c'est bizarre, c'est
et
que
First Class.
On a dit énormément de mal, j'ai trouvé, alors que je suis sorti de la salle, j'ai fait oh, écoute, c'était cool. Et en décortiquant le scénario, on se rend compte que c'est de la merde. Et je sais pas si tu te souviens, la dernière scène où t'as Xavier et Magneto qui jouent aux échecs.
Au café Les Vieux Copains.
C'est ça, le café s'appelle Aux Vieux Copains.
En français, parce
qu'ils
c'est
sont
à Paris.
À Paris, oui. Et là, ça monte et tu vois une belle image de Phénix dans le ciel en disant ah bah elle est pas morte.
Oui, mais pareil, voilà, tu reviens. C'est des clins d'œil de les échecs, Eric et Charles qui jouent aux échecs tout le temps. Mais c'est maintenant on en a marre quoi. Voilà, on en a marre.
Bon.
Est-ce qu'on a fait le tour de ce sujet, de cet univers ou pas?
Traité comme ça, oui. faut revenir sur les X-Men traités de manière terre à terre avec les gens qui sont au courant de leur existence, comment on fait pour intégrer ou pas et comment les gens.
Ah, mais non, mais ça aussi, ça aussi, ouais. J'ai vu plein de fois.
C'est vrai,
on l'a déjà fait.
Ouais, donc faut arrêter.
Le film commence en disant c'est bon, tout le monde est accepté, Bibapeloula, bon, bah, c'est génial.
Mais à ce moment-là, tu fais vraiment juste un remake de. Tu repars sur X-Men 1 et tu refais un remake X-Men 1. Encore ou même tu fais plus les X-Men, ouais, tu fais juste les mutants. Non, mais tu fais des mutants, pourquoi pas, une vie avec des mutants, mais pas d'école pour les intégrer. Pas de super-héros. Des gens qui ont des pouvoirs et qui sont obligés d'action dans la vie.
Donc, Heroes, quoi, la série.
Ouais, exactement, en fait. Non, bon, alors, arrêtons avec X-Men. Et glorifions Bryan Singer pour X-Men 1 et 2 et First Class pour une bonne tentative de prequel.
Ok, alors, on finit avec les courriers au fuyer de la semaine. Marie.
Eh bien, courez au musée d'Orsay pour voir l'exposition sur Berthe Morisot, qui est une impressionniste assez exceptionnelle. Et c'est une des seules, enfin, deux ou trois seules femmes impressionnistes qui étaient un petit peu oubliées par nous, les Français, alors que c'est une superstar, notamment aux États-Unis. Et d'ailleurs, l'exposition qui lui est consacrée, elle ne vient pas de la France, elle vient des États-Unis. Et cette meuf a une vie absolument passionnante. Renseignez-vous un peu sur elle. C'était vraiment. C'était une rebelle. Enfin, c'était une femme flamboyante. Voilà. Sa vie est un roman.
D'accord. Fiona ?
Alors, moi, je vais. Je vais recommander une série que tout le monde recommande, c'est Tchernobyl.
C'est ma recommandation.
Ouais, bah oui, mais écoute, c'est un chef-d'œuvre, alors on est obligé de le recommander.
J'irai peut-être pas cacher chef-d'œuvre, mais c'est exceptionnellement bon.
Ouais, c'est vraiment exceptionnellement bon. Donc c'est sur HBO, c'est donc sur Tchernobyl, c'est 5 épisodes seulement, donc c'est une mini-série, c'est terrifiant. Non pas par les images, mais par la situation, c'est vraiment, là tu dis, c'est une catastrophe, c'est vraiment le mot catastrophe.
C'est incroyablement haletant. Alors que tu sais ce qui va se passer, tu sais ce qui s'est passé, tu sais comment ça finit, et pourtant il y a un suspense, c'est une tension de dingue à chaque épisode.
C'est drôle aussi parce que du coup les Russes sont pas du tout contents, ils vont faire leur propre Tchernobyl.
Ah ouais,
pour donner leur version. Parce que ce qui est super, c'est que ça donne vraiment envie de te renseigner. Ça te donne vraiment envie de d'aller voir des documentaires, alors que c'est déjà très très renseigné. Et tu vois, j'ai comparé des images de la série par rapport à des images d'archives, notamment quand ils sont sur le toit et qu'ils enlèvent les débris. C'est la même chose, quoi. C'est vraiment, vraiment un travail de fou. Et non, c'est fascinant et c'est hyper intéressant. Et à la fin, donc il y a un petit carton qui dit « Oui, on estime, c'est dur d'estimer Tchernobyl, les victimes, on estime entre 4 000 et 93 000, mais le compte officiel pour la Russie, c'est 31.
Non, c'est vrai que
j'ai hâte de voir leur Tchernobyl à eux.
Non, mais c'est
très à charge contre la Russie.
Mais, oui, mais c'est pas trop américain.
Non, mais c'est... Autant, non, enfin, ça montre... C'est quand même... globalement anticommunisme, hein.
Oui.
Et en fait mais le thème de cette série, c'est le mensonge, et c'est comment à force de mentir et d'accumuler les petits mensonges, tu peux arriver littéralement à une catastrophe nucléaire. Ah, et voilà. Vraiment à regarder.
Ouais, super.
Bah, moi c'était ma recommandation, mais j'ai quand même recommandé les deux en même temps, Just Cause 4, donc le jeu vidéo qui est évidemment la suite de Just Cause. Le 3 était vraiment fun, était vraiment marrant. Et le 4 ne réinvente rien, ils ont juste rajouté des éléments météo, avec une tornade qui se balade sur la map et qui sert pas à grand chose. Le scénario est toujours nanardesque, ça c'est pas très grave, mais il y a pas vraiment de nouveauté, c'est pas vraiment plus beau. Mais comme moi, si comme moi on a aimé le 3, bah on peut toujours aimer utiliser sa wingsuit et puis se balader à travers la ville et puis tuer des gens en rouge et les gentils en bleu. Ça a pas changé par contre, ça c'est très simple. On vous remercie de nous avoir écoutés et puis on vous souhaite une bonne fin de canicule et puis on se retrouve bientôt.
Non, on ramène les gamins au manoir. Après tout, on est les X-Men.
Non, X-personnes.